Les sœurs, nous voici réunis aujourd'hui autour du Christ, mais aussi particulièrement en ce jour de sa Sainte Mère, qui est le trésor caché de l'Église. Pourquoi le trésor caché ? Parce qu'elle a toujours été discrète. Pour elle, il n'y a même pas eu besoin d'un concile, comme il y a eu beaucoup de conciles pour proclamer que le Christ est une personne divine, l'un de la Sainte Trinité. Cette icône nous montre déjà que, par la réunion sur l'icône, les apôtres qui, à l'époque de sa dormition, étaient déjà dispersés à travers le monde civilisé et connu, et des docteurs de l'Église, les trois saints docteurs qui sont présents alors qu'ils ne vont naître que plusieurs centaines d'années plus tard, cela signifie que dès l'époque des apôtres, il y avait l'unité dans la compréhension du rôle de la Mère de Dieu. Il n'y avait pas d'hésitation qui était, quel est son rôle dans l'Église.
Non.
On savait qu'elle se tenait après sa dormition, qu'elle allait se tenir comme sur la Deicis, à la droite du Christ. Mais qu'elle devait passer par le même chemin, c'est-à-dire qu'elle n'allait pas échapper à la mort corporelle. Si bénie soit-elle qu'elle connaissait le moment de cette dormition, mais immédiatement reçue dans les bras du Seigneur, et comme en elle, il n'y avait pas d'ombre pour pour repousser la lumière de Dieu. Elle pouvait entrer tout entière dans la lumière incréée de Dieu. Et c'est pour cette raison que l'Église a compris que même son corps de chair, d'os, comme on le verra quelques jours après, puisqu'en ouvrant le tombeau, il est vide aussi, que même son corps avait été entré dans la lumière de Dieu. C'est-à-dire, elle n'avait pas besoin d'attendre la fin des temps, la fin du monde. Elle avait déjà accompli tout ce que nous sommes appelés à accomplir, ici-bas, mais aussi au-delà. Parce que les saints, et nous sommes tous en chemin, c'est notre devoir spirituel vers la sainteté, c'est-à-dire vers le rapprochement avec Dieu, ne s'arrêtera pas à notre mort corporelle, parce que nous n'avons pas, depuis la naissance, la même perfection de l'âme que la Mère de Dieu. Une perfection qui n'était pas automatique d'avance, comme l'ont dogmatisé ensuite un peu l'Église Occident. Non. C'est par ses efforts personnels et sa confiance en Dieu et son écoute. Bénie soit celle qui a cru les paroles qu'elle a entendues et qui a conformé sa vie et son obéissance à ses paroles. C'est une vraie béatitude. Et ensuite, bienheureux, voilà la deuxième lecture que vous avez entendue tout à l'heure, celui ou celle qui écoute et qui garde les paroles de Dieu, c'est-à-dire qu'elle a accueilli la parole de Dieu qui est le Verbe dans sa chair. Mais ensuite, quand le Christ a grandi, elle a écouté la parole qui sortait du Verbe de Dieu, de son Fils, et ces paroles sont entrées en elle profondément. Et à la Pentecôte, même si on ne la voit pas sur toutes les icônes de la Pentecôte, parce que la place centrale est toujours celle du Christ invisiblement présent, à la Pentecôte, toute la tradition orale dit qu'elle était avec les apôtres. Et là, personnellement, elle a reçu la plénitude du Saint-Esprit parce que depuis son enfance, dans le temple, elle avait réservé, je dirais, toute son âme, tout son esprit, tout son corps à accueillir cette lumière incréée, cette lumière divine. Il n'y avait plus d'ombre. Même les grands saints ont encore quelques petites ombres. Et c'est pour ça que ils ont encore, disent les saints-pères, encore un essai de père théologien d'origine russe, Serge Bulgakov, qui nous le rappelait, beaucoup, même des grands saints, ont encore un petit chemin à parcourir dans l'au-delà. Mais une seule se tient à la droite, même pas à la gauche, comme ça, Jean-Baptiste, à la droite. C'est la Mère de Dieu, parce qu'elle a été le miroir parfait de la sainteté divine. Mais elle a acquis, douloureusement aussi, rien ne se fait sans une participation qui peut être douloureuse, en tout cas qui demande un effort. Rien n'est automatique, sinon il suffit de laisser fonctionner les ordinateurs, aujourd'hui ils sont assez perfectionnés, et puis on va les programmer la sainteté pour tout le monde. Non. Siméon lui dit, en la présentation de l'enfant Jésus au temple, un glaive va te transpercer le cœur. Ça n'est pas rien. Et saint Siloane dira, prier, c'est donner son sang. C'est pas juste dire, Seigneur, j'ai besoin de ceci ou de cela. Bien sûr, on le peut, le Seigneur a dit, demander. Vous recevrez selon ce que le Père, j'ajoute, pense bon pour vous. Il ne va pas vous donner quelque chose de mauvais, parce qu'on ne sait pas, et dans notre inconscience, on demande quelque chose de mauvais pour nous, et parfois on dit, ah ben, j'ai pas obtenu, ben heureusement. Que si tu l'avais obtenu, ça aurait été pour ton malheur. Mais, douloureusement quand même, parce qu'il faut, pour accueillir la volonté de Dieu, il faut aplatir un peu notre volonté. Et ça, c'est douloureux. Ou notre sentiment naturel. Une mère qui voit son fils mis à mort, c'est crucifiant. Donc elle a été crucifiée, on peut dire, avec son fils. Elle ne pouvait pas faire autrement que de suivre le chemin qui passe à travers la porte étroite. Or, la porte étroite, qu'est-ce que c'est pour nous? Le chemin est étroit, resserré et étroit, le chemin qui mène à la vie. Quand on entre dans la basilique de Bethléem, il faut se pencher. La porte est basse. Eh bien, pour entrer dans le royaume, avec le moins d'ombre possible pour, en quelque sorte, nous protéger, entre guillemets, de la lumière de Dieu, ce qui est une mauvaise protection, il faut se pencher et passer par la porte étroite de la mort corporelle. Et pour franchir cette porte, il ne faut pas avoir trop de valises. Et les valises nous empêchent de passer, en tout cas, dans la bonne direction, celle du royaume. Il y a une histoire qui dit, une dame avait fait beaucoup de bonnes actions, elle en était très fière. Mais arrivée à la porte du paradis, elle ne peut pas passer. Elle n'arrive pas, c'est trop étroit. Le Seigneur nous l'avait dit. Alors un ange lui dit, mais écoute, laisse toutes tes valises et tu pourras peut-être passer. Elle dit, ah oui, mais ce sont toutes mes bonnes œuvres. Tout ce dont je suis fier, tout ce que j'ai fait de bien. Et bien c'est de l'orgueil, c'est de la vanité. Et la vanité ne peut pas passer dans le royaume. Donc même ce qui semble être de bonne nature ou de bonnes intentions, même cela, il faut accepter de s'en séparer. Il faut entrer, je dirais, dans le paradis, dans la nudité qui était celle de l'origine, mais avec en plus toute l'expérience humaine accumulée au cours de notre vie, comme au cours de l'histoire de l'humanité, depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Nous récapitulons nous-mêmes toute l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que chacun d'entre nous, les jeunes, les adolescents en particulier, doivent revivre le choix. Ce n'est pas les parents qui feront décider à leur place. On leur a donné le meilleur qu'on pouvait leur donner dans leur bagage. Mais après, chacun doit revivre les combats intérieurs. Est-ce que je choisis ce chemin ou celui-là ? Et ça fait une croix. Qu'est-ce que je vais faire? Où est le vrai bonheur? Où est la vraie... Parce que tous, on cherche le bonheur. Et parfois, on le cherche d'une très mauvaise manière. Et la Mère de Dieu a trouvé la vraie joie. Et le Christ nous dit que cette joie soit avec vous, comme la paix. Que cette joie soit parfaite. Eh bien, pour que la joie soit parfaite, et beaucoup de nos saintes, même du XXe siècle, ont dit... y compris le starets Johann Stresemski de Pskov, quand on lui demandait quel était le moment le de grâce le plus important de votre vie. Il a osé dire, parce qu'il l'avait vécu, si ça avait été un roman, on aurait dit ça c'est des balivernes, c'est des histoires. Mais il avait le droit de le dire, il l'avait vécu. C'est quand j'étais dans les camps. Quand j'étais dans les camps, et d'autres l'ont vécu dans les camps hitlériens. Là, c'était un camp stalinien. Parce que, à chaque instant, pour survivre, je savais, je me rappelais que Dieu était présent au plus profond de moi. Et si ça n'avait pas été le cas, j'aurais, comme beaucoup d'autres, sans doute perdu la vie et parfois l'âme. Alors, ne maudissons pas les épreuves. Elles le sont grâce à Dieu, grâce au Christ. Elles deviennent un ressort si on les vit dans la foi. Les épreuves, si elles ne sont pas vécues dans la foi, sont parfois au contraire un coup de marteau. Et il ne faut pas les rechercher, il ne faut surtout pas les provoquer chez nos frères et sœurs. Le monde s'en charge très bien. Mais ce que Dieu nous donne, c'est la possibilité d'utiliser les difficultés comme un tremplin pour nous réveiller, pour nous élever plus haut, pour nous faire rentrer plus profondément en nous. Et là, la Mère de Dieu est à la fois une aide, une protection. Elle intercède pour nous, elle veille sur nous, elle est à côté de nous, elle nous montre son Fils, c'est-à-dire qu'elle nous montre le chemin sans arrêt. Mais en plus de cela, elle nous montre surtout le modèle. Le Christ est une personne divine. Nous, on est des personnes humaines. Bien sûr, il faut imiter le Christ, mais le Christ, parfois, est inimitable. Et la Mère de Dieu, elle était vraiment une personne humaine, mais qui a été divinisée parce qu'elle a offert tout ce qu'elle était, corps, esprit et âme, à la lumière de Dieu. Tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a fait, c'est une leçon et un modèle pour nous. Et ce qu'elle a fait le plus, c'est l'humilité. Parce que ce qui a perdu le monde, c'est l'orgueil. C'est Satan. C'est ce qu'il a transmis à l'humanité comme un mauvais virus. Sous toutes ses formes, la vanité, l'amour de soi, etc. La certitude que nous seuls on a raison, la Mère de Dieu, elle a écouté, la parole de Dieu est descendue en elle, il a porté du fruit, le plus beau fruit qui soit. Elle a souffert avec le Christ, mais l'amour a transformé cette souffrance en joie, parce que notre foi n'est pas une foi de la tristesse. Parfois, certaines églises, et notamment en Occident, ont accentué la dimension de la souffrance avec la tristesse. Non. Il n'y a pas de volonté de Dieu de nous imposer la tristesse ni la souffrance. Mais la souffrance existe et on y contribue. La plus grande souffrance qui existe dans le monde, c'est des hommes qui la causent à d'autres hommes. Mais Dieu a fait qu'à travers cela et malgré cela, et en s'appuyant sur ça, un bien peut en sortir. Et c'est valable pour toutes les épreuves de la maladie jusqu'à l'accomplissement, le dernier acte de la vie. Le dernier acte de la vie, c'est le passage de cette vie à l'autre vie. Et une vie qui a été vécue dans la lumière, le passage de ce qu'on appelle la mort biologique, se fera dans la lumière et dans la joie. Mais une vie qui aura été passée dans les ténèbres, eh bien, le dernier moment se fera dans l'angoisse et dans la terreur. Il nous appartient encore de faire le choix. Mais souvenons-nous, ce que la Mère de Dieu a fait le plus, c'est de s'effacer. Ça ne veut pas dire disparaître. S'effacer pour que la lumière de Dieu, à travers elle, touche tous ceux qui étaient autour d'elle et toute l'Église dont elle est le cœur mystique en tant que personne. L'Église, à la fin des temps, non, je dirais dans le royaume accompli, ce sera la totalité des saints, la totalité de ceux qui, à travers les siècles, se seront laissés pénétrer de la lumière de Dieu. Ils seront la personne de l'Église, épouse du Christ qui est l'époux. Mais en attendant que tous les hommes qui ont choisi de se rapprocher de Dieu soient accueillis dans cette communion trinitaire, et nous avons une personne déjà totalement accompli en Dieu, qui nous précède et qui nous accompagne, c'est Marie, la Mère de Christ. Alors, prenons modèle sur elle, qui était parfaitement humaine, mais qui est devenue aussi parfaitement divine par son illumination, par son accueil de la lumière de Dieu. Et imitons son humilité, son effacement, mais toujours présente. Effacement ne veut pas dire absence, à tel point que, et je terminerai là-dessus, dans le Tropaire, on dit, par ta dormition, dormition, elle devient invisible, tu n'as pas abandonné le monde. Elle reste présente, et plus que jamais, elle n'est plus limitée, comme le Christ, évidemment, après sa résurrection, par le temps et par l'espace. Elle rejoint le cœur de tous ceux qui cherchent Dieu et qui suivent le chemin tracé par son Fils. Amen.